IDFM Radio, le média valdoisien. Et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe, merci d'être au rendez-vous en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Aujourd'hui, vendredi 12 avril 2024, l'économie en direct ouvre son micro à deux associations, qui œuvrent chacune à leur façon pour le bien commun. Altruisme, éthique, générosité, engagement sont leurs leitmotifs. Et pour en parler, j'accueille pour 60 000 rebonds Laurent Klein. Bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Chef d'entreprise, cofondateur de Nakano, responsable d'antenne et parrain référent, co-responsable du parcours Envol, et Jean-Marc Bouvet. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jacqueline.
Secrétaire général et coach référent de la région Île-de-France-Normandie. Et pour le Lions Club, j'accueille Catherine Poquet. Bonjour Catherine.
Bonjour Jacqueline.
Vice-présidente et directrice de l'organisme de formation Lion Quest France. Et Patrick Bonnefond, administrateur Lion Quest France, chargé de la prospective et du développement. Bonjour Patrick.
Bonjour Jacqueline.
Vous êtes également, Patrick, vice-président de Un Passeport pour la Vie, Île-de-France-Ouest. Past gouverneur Île-de-France-Ouest, mais nous en parlerons tout à l'heure. Donc bienvenue et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct, une émission à retrouver comme vous le souhaitez grâce à son podcast. Alors, quand le collectif change le monde, c'est le titre qui pourrait être donné à ce nouveau numéro de l'économie en direct. Qu'en pensez-vous, Laurent Klein, vous qui êtes le responsable d'antenne pour l'association 60 000 rebonds dans le Val d'Oise et, comme je l'ai dit, par un référent co-responsable du parcours Envol?
D'abord, je salue ce titre ambitieux qui reflète probablement un gros changement d'état d'esprit dans la société aujourd'hui où le collectif prend de plus en plus d'importance et ça, c'est chouette. Et du coup, qui dit collectif dit intelligence collective également. Donc, c'est effectivement quelque chose qui se développe de plus en plus, on le voit. Et nous, chez 60 000 rebonds, on pratique aussi beaucoup cette intelligence collective à travers des ateliers dits de GED, groupe d'échange et de développement, parce que c'est la force justement de l'ensemble des groupes qui vient trouver des solutions aux problèmes évoqués.
Alors, quand l'entreprise se solde par une défaillance, un échec, le ou la dirigeante, tant sur le plan professionnel que personnel, subit parfois un traumatisme dont il est difficile de se relever. Un épisode où plus que jamais, il ne faut pas rester seul, mais au contraire, faire appel à des structures qui accompagnent et aident à retrouver un second souffle. C'est le cas de l'association 60 000 rebonds.
Vous pouvez pas tomber plus juste. On accueillait hier dans notre réunion mensuelle une nouvelle entrepreneuse et qui est très organisée. Donc avant son dépôt de bilan, elle avait pris contact avec moi sur recommandation d'un autre réseau économique et elle avait organisé sa venue chez 60 000. Et le 26 mars, c'était le jour d'ouverture de la procédure de liquidation. Et donc je l'ai appelée en fin d'après-midi pour savoir comment elle allait. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable, vous m'appelez déjà, mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Parce qu'en fait, je pensais être prête à ça et je suis sorti complètement désemparé de cette audience, vraiment pas bien, etc. Et ça me fait beaucoup de bien justement de me sentir accueilli et de sentir qu'on m'attend pour parler de cette aventure. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque en fait la parole qui commence à s'ouvrir et la parole d'accueil qu'on a vis-à-vis de ces entrepreneurs qui ont failli leur fait un bien fou. Et on l'a accueillie hier pour la première fois. Elle s'est retrouvée avec d'autres entrepreneurs, des pères qui avaient aussi déposé le bilan et qui ont parlé avant elle de ce qui leur était arrivé. Et du coup, ça a facilité sa parole.
Bien sûr.
Et ce que j'ai retenu, c'est qu'elle est partie assez sereine.
Oui, oui.
Alors, ça va replonger parce qu'on sait qu'au fur et à mesure de la procédure, on a des hauts et des bas. Mais en tout cas, elle sait qu'elle est appuyée. Elle sait qu'elle a trouvé des manières de rebondir chez nous et des gens qui écoutent la parole et puis aussi des gens qui vont l'aider sur le plan technique à rebâtir un CV, à préparer ses entretiens, à s'orienter dans ses nouvelles recherches. Donc, oui, c'est très, très, très important.
Oui, on l'aura compris. Déjà, l'ADN de l'association 60 000 rebonds, c'est sa vocation à aider ses dirigeants dans cette voie, de repartir d'un bon pied. Et puis, pour nous, c'est l'occasion, une fois de plus, aujourd'hui, de mettre en lumière encore et encore ce parcours de vous au service des entrepreneurs en post-liquidation. Et on y reviendra peut-être, Laurent, mais... On ne le dit jamais assez, certains dirigeants, quand ils passent en liquidation, enfin quand ils vont devant le tribunal, ils pensent que voilà, c'est fini, enfin qu'ils vont être tranquilles, alors qu'en fait c'est une autre aventure qui commence, et c'est bien que vous soyez là.
Oui, alors c'est effectivement une nouvelle aventure. Déjà, c'est la première fois en général, pour l'essentiel, qui sont confrontés à une liquidation. Donc c'est un moment assez traumatisant, finalement, parce que parfois on peut être maltraité aussi par les instances, et notamment les administrateurs. Il y en a qui sont extrêmement durs, voire indélicats parfois, traitant certains entrepreneurs comme des voleurs.
On doit penser aux mêmes.
Oui, on a des noms, mais on ne les donnera pas. Donc effectivement, quand on sait et à l'avance, on essaye de pallier justement certains administrateurs parce que c'est extrêmement dur, extrêmement difficile, alors qu'il y en a qui sont beaucoup plus arrangeants, même s'ils sont fermes quand même, mais dans la manière de les accueillir, dans la manière de les traiter,
tout
c'est pas des voleurs.
Il y a le fond et la forme.
Qui ont déposé tout simplement parce qu'un de leurs fournisseurs ne les a pas payés, ou bien parce qu'un associé a décidé de vendre une autre partie de la boîte, et je pense à quelqu'un en particulier. Ils n'ont rien fait de mal, ces gens-là. Bien au contraire, j'ai même des entrepreneurs qui ont payé les salaires eux-mêmes sur leurs fonds propres et ils déposent le bilan et on vient leur reprocher d'avoir payé les salaires. Enfin, c'est incroyable de temps en temps. Donc oui, c'est difficile par moment et c'est une aventure qui commence et qui va être relayée à chaque fois qu'on reçoit un recommandé, à chaque fois qu'on reçoit une convocation. On a le cœur qui palpite, il y a un coup d'adrénaline ou un coup de mou aussi. Parfois, on voit les entrepreneurs replonger au moment de ces trucs-là. Donc on est là justement pour les aider. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore une procédure au tribunal. C'était la sixième de cet entrepreneur. J'ai été l'accompagner justement pour que ça se passe bien. Puis parfois, on a des choses extraordinaires. Je vais vous donner un cas. J'ai un juge qui s'est dessaisi d'une affaire parce que l'entrepreneur était tellement extraordinaire, tellement honnête qu'en fait, il n'a pas supporté que... L'avocat n'est pas fait son boulot correctement à temps pour pouvoir produire correctement les créances. Donc, il s'est dessaisi de l'affaire pour qu'il y ait un nouveau juge pour stopper tout ça et que tout soit recommencé à zéro. Donc, il y a quand même des histoires absolument incroyables qui se passent. Et il faut dire aussi, voilà, de temps en temps, il y a des trucs formidables.
C'est des belles
histoires, ça. C'est presque de la magie.
Et merci aussi de souligner ce rôle des juges. Qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise, donc qui sont aux premières loges pour pouvoir juger de la crédibilité de quelqu'un et apporter justement tout leur soutien le cas où.
Oui, alors et puis les juges, il faut quand même
Je parle du tribunal de commerce,
on est bien d'accord,
évidemment.
Les juges du TC, ils voient très bien au travers de ce que fait déjà l'attitude de l'entrepreneur, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas. Moi, je suis effaré de voir que sur 100% de procédures qui sont appelées le matin, il y a 60% d'entrepreneurs qui sont absents. Ça en dit quand même très très long sur l'implication et le niveau de ils viennent pas, ils sont pas là sur aucune procédure. Et dans les 40%, il y a plein de gens tout à fait bien qui suivent ça. Et les juges voient très bien, et les administrateurs derrière aussi très bien, ceux qui sont propres, ceux qui font bien les choses, les bonnes volontés. Ils voient clair au travers du jeu.
Bien sûr. Oui, c'est transparent.
C'est tout à fait transparent, oui. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs se disent, mais non, il ne va pas s'en apercevoir. Mais pas du tout, on s'en aperçoit très, très bien.
On ne se leurre que soi-même dans ce cas-là.
Absolument.
Absolument. Alors, peut-être nous rappeler, puisque bon, nous faisons ces émissions régulièrement pour 60 000 rebonds, mais on espère qu'il y ait toujours des nouveaux auditrices, auditeurs qui découvrent cette association. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, vous Laurent, vous Jean-Marc, pour nous rappeler comment est né 60 000 rebonds.
Je vais prendre la parole parce qu'il a déjà beaucoup parlé.
Oui, déjà.
on va lui laisser aussi le temps de reposer un peu sa voix. 60 000 rebonds est né en 2012, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à l'occasion finalement d'une liquidation. Philippe Rambaud, pour ne pas le nommer, a lui-même liquidé son entreprise et s'est retrouvé du jour au lendemain sans rien. Ce que disait Laurent, finalement, en fait, c'est un traumatisme. Hein, on perd quelque chose. D'ailleurs, on arrive maintenant à mesurer ça. Chez certains chefs d'entreprise, pas tous, parce que ça dépend de leur capacité de résilience, le dépôt de bilan, la liquidation, c'est l'équivalent de la perte d'un enfant.
Ah oui.
Vous voyez, donc,
psychologiquement.
Vous voyez le poids que ça peut avoir et le traumatisme que ça peut créer. Alors, pas chez tous, bien sûr, on n'est pas égaux devant l'échec, quelque part, et devant ce type d'expérience. Donc, 2012, un peu plus de 10 ans.
Extrême, voilà, c'est.
Voilà, ça peut aller jusque-là, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir traiter et c'est pas rien. Il faut pas le faire n'importe comment et il faut pas le faire avec n'importe qui. Donc, si on reprend la genèse, 2012, il constate qu'il n'y a rien, en l'occurrence, pour accompagner un entrepreneur qui a liquidé sa société. Et donc, il décide, et sa femme lui dit, qui est coach d'ailleurs, lui dit « tu peux pas rester seul, c'est pas possible, il faut pas que tu restes seul, il faut vraiment que tu arrives à trouver quelqu'un qui va t'aider à rebondir, il faut que tu te fasses accompagner, il faut vraiment pas que tu restes seul ». Donc, on voit bien ce côté de la solitude qu'il est très important de casser le plus vite possible, c'est-à-dire que, et là nous on le dit, hein, Laurent le disait, le témoignait là il y a quelques instants, on appelle tout de suite, on est là, on est présent, et cette présence-là elle est vraiment importante. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va faire quelque chose, on va créer quelque chose, et puis il a rencontré une personne qui l'a aidé à le faire, qui avait subi aussi un échec dans sa vie, un homme politique, le maire de Bordeaux pour ne pas le nommer de l'époque. Pour qui ça a résonné fortement,
oui,
puisqu'il est parti pendant plus d'un an au Canada pour quelque part, on va dire, se refaire, et qui a été touché
vous parlez de Monsieur Juppé, bien sûr, et qui en plus a lui aussi subi un traumatisme un peu de trahison quelque
exactement,
part.
Hein. Exactement, quelque chose de vraiment équivalent. Ça a matché
de violent.
Part, voilà. Et il lui a ouvert en fait son réseau sur Bordeaux à l'époque, et c'est comme ça en fait qu'est né 60 000 rebonds au début. Voilà. Donc c'est vraiment né de ça, avec un accompagnement, et là très rapidement on peut l'exprimer, un accompagnement qui est double, à la fois par un coaching un par un ou une marraine, qui est l'accompagnement dit individuel, où on va reconstruire la personne et on va l'aider à rebondir dans un nouveau projet professionnel, quel qu'il soit. Ça c'est l'entrepreneur qui le choisit, qu'il soit salarial ou pas. Et puis un collectif dont Laurent aussi a parlé, à travers finalement retrouver des pairs, trouver des gens qui sont dans la même situation que lui, pour dire tiens, je ne suis pas seul, finalement il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses peut-être encore plus traumatisantes les miennes, ce qui permet de mesurer aussi où on en est, parce que quand on est tout seul on ne sait pas mesurer, on a l'impression des fois qu'on va soit le minimiser soit le maximiser, mais on a du mal à ajuster finalement la chose. Donc ça permet d'ajuster finalement, savoir où on en est et de relativiser, ce qui va permettre derrière, du coup, de rebondir. Alors à la fois, c'est un accompagnement individuel par le coach, qui est un professionnel, et ça, on y est très attentif, d'autant plus qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise subissent des choses qu'ils n'avaient pas subies avant, à cause, on va dire, du Covid, qui a été quelque chose qui a été un raz-de-marée.
Enfin, en l'occurrence,
on n'a pas fini avec cette chose-là, à tous les niveaux. Et puis ce collectif qui va l'aider à la fois à voir qu'il n'est pas tout seul, donc il va pouvoir s'appuyer, en fait, sur ce collectif. Et en même temps, il va pouvoir y participer. Et ça, c'est très important dans ce qu'on appelle le comité d'engagement, c'est-à-dire au moment où on reçoit l'entrepreneur pour vérifier avec lui qu'on va être à même capable de l'accompagner et que lui, ça va correspondre à ses attentes aussi, parce que si quelque part on ne sait pas répondre à ses attentes, on est inutile. Donc c'est important qu'on vérifie ça ensemble. à partir de ce moment-là, on va vérifier ensemble qu'on va pouvoir le faire et que surtout, lui, il va s'engager à le faire. Parce que s'il s'engage pas, oui. Vous savez, c'est comme au tribunal des fois, alors pas au tribunal de commerce, mais des fois, on dit, vous allez avoir une obligation de soins, monsieur ou madame, parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas normal. L'obligation de soins, ça ne marche pas, en fait. Pourquoi ? Oui. Parce que la personne n'est pas impliquée, en fait. Bah, absolument. Et ça, c'est vraiment important que la personne puisse s'engager, finalement, dans sa démarche de rebond.
C'est un petit peu aussi, pour reprendre cet exemple, la démarche de quelqu'un qui va voir un psy et qui, le psy dit qu'il faut payer parce que le fait de payer, ça engage la personne. Exactement. Et elle ne vient pas comme ça. Si elle venait gratuitement, voilà. Il n'y aurait pas le même intérêt.
Et d'ailleurs, je suis psychothérapeute également, dans ma vie. Je vais faire payer en fonction aussi des revenus. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, je ne vais pas lui faire payer le même prix que quelqu'un qui gagne très peu, voire même payer très très peu à quelqu'un qui gagne vraiment très peu d'argent pour que ça soit accessible. Voilà, donc on peut arriver à des montants effectivement complètement délirants, mais en fait, qui vont engager la personne parce qu'elle va prendre ça au sérieux. Elle va dire, bon, il va falloir que j'y aille. Alors nous, à 60 000 rebonds, on ne fait pas payer.
Oui.
C'est gratuit. C'est entièrement gratuit.
Je sais qu'il y a une petite adhésion, mais donc vous me disiez la dernière fois que certains, même parfois, ne la paient pas.
Oui, alors, voilà. Il n'y a pas d'obligation. Alors, pour les bénéficiaires, on n'appelle pas ça une adhésion. On appelle ça un petit peu différent. C'est vraiment un engagement quelque part à participer. Mmh, c'est plus une participation qu'une adhésion. Par contre, pour les bénévoles, on va leur demander de payer effectivement une adhésion. Ce qui va les couvrir, par exemple, en termes d'assurance, responsabilité civile.
Bien sûr.
Parce qu'on a une vraie responsabilité sociétale, sociale à ce niveau-là. Et il faut, bien évidemment, faire les choses correctement de ce point de vue-là. Donc voilà la genèse de 60 000 rebonds. On a fêté nos 10 ans l'année dernière.
Oui.
Donc ça a été extraordinaire, enfin on a voilà.
Oui, une belle soirée.
Voilà, on a accompagné depuis le début de la création un peu plus de 2500 entrepreneurs sur le territoire national et rien que l'année dernière en 2023, on en a accompagné plus de 1000. C'est-à-dire que on est vraiment dans une croissance qui est peu au regard des 60 000 entreprises.
Oui,
en 2023, c'était 54 000. Mais ça continue à progresser, malheureusement, et on va très certainement dépasser le cap des 60 000, qui était déjà, on va dire, la partie haute du nombre de liquidations par an en France d'entreprises.
Et puis, je voudrais ajouter que Philippe Rambaud est parti d'une feuille blanche, et qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'antennes dans toute la France et même en Outre-mer.
Absolument.
Et je crois que vous êtes en train de dupliquer dans des pays européens.
Oui, en Italie et en Belgique, en l'occurrence, pour ne pas les nommer. On a 10 régions en tout, dont une région Outre-mer, et effectivement une quarantaine d'antennes, avec deux mémoires, mais sous toute réserve, je crois que nous avons créé une quinzaine d'antennes en 2023 sur les différents territoires français.
C'est un format qui marche bien. Merci Jean-Marc, merci Laurent pour ces détails. On marque une pause avant de continuer puis de développer la méthode 60 000 rebonds. À tout de suite.
Do you think we're going down when the city lights and the ocean rise? I think we're going down, and I don't know. So hold on to you, and I hold on to you, and I. Is it God is breathing in? And if you didn't believe, you better now, because I think we're going down. And I don't know, so hold on to you, and I hold on to you, and I. Hands on my ears, I say, do you believe that God is in my pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe, and the rhythm is good, and your rhythm is good, and your rhythm is good, and I. And the birds sing when my baby cries, and the heart is a song,
and hold on is a song,
and the wind blows when my baby sighs, and the heart is a song,
and hold on is a song.
And my baby keeps a beat when he's walking down the street. I say your rhythm is good, and your rhythm is good, and your rhythm is good. And I hold on to you.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, cette émission est consacrée à des associations qui œuvrent pour le bien commun. 60 000 rebonds avec Laurent Klein, cofondateur de Nakano, responsable d'antenne et parrain référent, co-responsable du parcours en vol, et Jean-Marc Bouvet, secrétaire général et coach référent de la région Île-de-France-Normandie. Et pour le Lions Club, Catherine Poquet, vice-présidente et directrice de l'organisme de formation Lion Quest France, et Patrick Bonnefond, administrateur Lions Quest France, c'est difficile à dire, hein, je trouve, chargé de la prospective et du développement. Donc, Jean-Marc et Laurent, vous nous avez rappelé les fondamentaux de 60 000 rebonds. Maintenant, peut-être parler de cette méthode qui avant tout prône, fait le, on va dire, l'éloge de l'échec. Hein. Pour dire que être en échec n'est pas une tare, ne doit pas générer de la honte, mais au contraire peut-être un plus sur son CV.
Ben, clairement, Laurent. De toute façon, je dis, mais je l'avais déjà dit à l'antenne, hein, que conduire une entreprise, c'est jamais qu'une succession d'échecs qui tournent mal, puisque on est dans la conduction de l'entreprise, dans le quotidien, toujours en train de repousser plus loin, de transformer ses échecs en succès.
On apprend de ses échecs.
Voilà. Oui. Et donc, j'allais dire que quand ça tourne mal, c'est un dernier échec qui n'a pas réussi à tourner en succès. Donc oui, on apprend beaucoup. On le voyait hier encore avec cette jeune entrepreneuse, jeune parce qu'elle vient d'arriver récemment chez nous.
Oui.
Qui disait, mais dans le fond, je réalise en vous écoutant que j'ai fait beaucoup de choses et que je sors plus forte de tout ça. Clairement, on change le regard sur l'échec quand on vient chez 60 000 rebonds. On ressort avec du positif de ça, parce que d'abord, l'homme a beaucoup de mal à gérer l'échec. C'est quelque chose de compliqué. Mm-hmm. Mais Jean-Marc en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, parce que c'est sa tasse de thé, entre guillemets. Ce sera très intéressant d'écouter ce qu'il dit. Voilà, l'idée, c'est justement de repartir de ces échecs, de les vivre comme des éléments positifs. Aux États-Unis, je le répète souvent, c'est une ligne de plus sur un CV, une faillite. Hein. Ici, on commence à changer ce regard, mais c'est encore pas très bien vécu. Et ça vient de très loin, ça vient du 15-17e siècle où les gens qui déposaient, c'était des escrocs, c'était des voleurs.
Alors il y en avait forcément, mais ce n'est pas la majorité des...
Oui,
des...
et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Oui, il y a des faillites
bien
frauduleuses,
sûr,
c'est
toujours,
clair.
Oui.
Mais nous, on cherche justement, on fait très attention, notamment dans les entretiens qu'on a préalables à tout, à éviter ce genre de situation. Et donc, on a une attention très particulière lorsqu'on recrute un nouvel entrepreneur à éviter des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs un peu spécialisés là-dedans.
Oui.
Il y en a qu'on connaît très bien au tribunal de commerce. C'est encore vous ?
Oui.
Voilà.
Oui, et alors c'est même... Mais je crois que c'est en train de changer parce qu'il n'y a pas de, transversalité entre certaines affaires et c'est bien dommage. Mais bon, je crois qu'ils y travaillent.
Oui.
Et je crois qu'il faut dire aussi que dans 95% des cas, les faillites concernent des petites entreprises.
Oui, il est clair qu'on ne reçoit pas, nous, des entreprises du CAC 40 qui ont fait faillite. Donc oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des TPE, vraiment des petites PME. Alors parfois des PME industrielles. On parlait du Covid tout à l'heure. On a une entrepreneuse, je garderai le nom évidemment discret, mais qui était une grosse sous-traitante de Safran.
Oui.
Qui a été sortie du marché, vous voyez très bien de qui je veux parler, Jacqueline, qui a été éliminée du marché par Safran pour des raisons qu'on ignore, mais ou qu'on soupçonne, mais dont on peut pas parler. Voilà, et donc on a des entreprises industrielles de 40 personnes, bien établies, voilà. Mais voilà, on n'a jamais des entrepreneurs de plus de 100 personnes. Je ne crois pas historiquement qu'on en ait eu. Jean-Marc, si tu en as eu connaissance, moi j'en ai pas.
J'en connais une, qui est une société historique qui était sur Paris et qui s'est retrouvée dans un imbroglio financier au niveau de la mairie de Paris, en l'occurrence, était une entreprise de 250 personnes. Et c'est très rare, mais le tissu économique français, c'est 90%, même voire plus d'entreprises de moins de 10 personnes.
De moins de 10%, ouais. Absolument.
Donc c'est le reflet de finalement ce qui existe par ailleurs sur le terrain.
Donc dans les profils qu'on a, on a des profils très différents. On a des gens qui viennent du monde scientifique. On avait reçu un entrepreneur ici qui était dans le...
Et comment va-t-il, Michel?
Philippe, pardon. Philippe, il a retrouvé du travail à Monaco, dans une entreprise qui travaille dans son savoir-faire à lui sur les dispositifs médicaux intraveineux. Voilà, pose de stent, pose de cathéter, etc. Donc, il redémarre une très belle carrière.
Oui.
Il est maintenant directeur de 3 ou 4 usines à l'étranger. Un parcours incroyable.
Ouais.
Voilà, et même chose, lui, ça lui a fait un bien fou de venir chez nous. Ça l'a aidé à rebondir, à reprendre confiance et à retrouver un vrai travail. Donc oui, les entrepreneurs, ça, c'est très différent. Enfin, plus petit, si je peux dire plus petit, c'est pas du tout le terme qui va, mais c'était quelqu'un qui était cafetier.
Oui. Plus modeste dans la structure.
Voilà, absolument. Oui. Et puis on a des entreprises là de bâches de protection, on a des bâches militaires, on a une personne qui faisait du design intérieur. Les profils sont vraiment extrêmement variés. Mais oui, c'est de la TPE et de la PME.
Alors, on peut dire aussi peut-être, alors évidemment, ça peut être paradoxal de dire ça, mais l'antenne du Val d'Oise fonctionne bien, puisque vous soutenez pas mal d'entrepreneurs en ce moment, même si ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pas bien, mais voilà.
Alors, elle fonctionne de mieux en mieux. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui arrivent chez nous. On a encore un hier, là. Voilà, mais ça fonctionne pas encore assez, parce qu'il y a un besoin beaucoup plus grand que ça. On a un besoin de notoriété, on a besoin de se faire connaître, de se faire recommander. Ça, c'est un des points importants. Voilà, et on travaille à tout ça. Ce qui me permet d'ailleurs de parler qu'on va probablement avoir au MEDEF 95, fin mai, un petit déjeuner des entreprises pour faire du mécénat sur le rebond. Voilà, qui est un événement qu'on va organiser justement pour essayer d'emmener un petit peu tout le monde en soutien de l'association pour aider à aller recruter ces entrepreneurs.
Bah écoutez, on vous souhaite que ce petit-déj fonctionne au maximum. Merci Laurent. Peut-être un conseil à donner à nos auditrices ou auditeurs. Le conseil impératif, pousser la porte de l'association.
Oui, c'est de pousser la porte sans hésiter. L'accueil est gratuit. On les accompagne pendant 2 ans gratuitement avec un coach professionnel qui va leur garantir des séances de remise en forme, avec un parrain ou une marraine qui va les accompagner totalement gratuitement. Et puis, si c'est pas direct, ça peut être aussi indirect. Mmh. C'est une recommandation. Ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une connaissance, une relation. Ne pas hésiter à en parler parce que c'est plutôt pas très connu et que globalement, je dirais qu'on a un taux de satisfaction de 99,99999%. Voilà, puisque tout cas sur l'antenne chez nous, on n'a pas d'entrepreneur qui ait quitté l'association sans nous dire merci, sans être content de ce qui s'était passé, sans nous dire tout le bien que ça leur a fait.
C'est un vrai plus.
Oui.
Merci Laurent pour votre engagement sans faille dans cette mission. De toute façon, enfin, vous restez avec nous puisqu'on va développer la partie coaching avec Jean-Marc. Alors, vous dites qu'il faut pousser la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire si des auditrices, auditeurs en situation de post-liquidation veulent vous rejoindre?
Ben c'est très simple, on fait 60000rebonds.com. Île-de-France, on trouve la région Île-de-France, on envoie un petit mail et on a une réponse en général dans la journée, au pire le lendemain.
Très bien.
C'est des cas d'urgence, on les traite le plus vite possible.
Merci pour cette précision. Un peu de musique avant de continuer avec Jean-Marc Bouvet sur cette formidable association qui est 60000rebonds. L'économie en direct et vous êtes bien sur IDFM Radio et ce matin j'ai le bonheur de recevoir deux associations formidables qui œuvrent pour le bien commun. Je veux parler de 60000rebonds et du Lions Club. Pour 60000rebonds, je reçois Laurent Klein, responsable d'antenne et parrain référent, co-responsable du parcours en vol, et Jean-Marc Bouvet, secrétaire général et coach référent de la région Île-de-France Normandie pour le le Lyons, Catherine Poquet, vice-présidente et directrice de l'organisme de formation Lion Quest France, et Patrick Bonnefond, administrateur Lion Quest France, chargé de la prospective et du développement. À force de, à la fin, je le dirai parfaitement, vous verrez, ça, il n'y aura pas de problème. Jean-Marc, donc merci d'être à nouveau avec nous ce matin, parce que je sais que vous venez de loin, donc merci de, d'être dans le studio.
Avec plaisir.
Donc vous, votre, on ne dira jamais assez que une des grandes forces de 60 000 rebonds, c'est justement ce, ce coaching qui est mis en place très rapidement lorsque vous rencontrez des entrepreneurs en, en post-liquidation.
Oui, tout à fait. Alors c'est pas que les coachs, hein, il faut pas oublier les parrains, les mains, c'est un ensemble de personnes, c'est un collectif en fait qui fonctionne. Et d'ailleurs on dit, je fais des formations de parrains depuis quelques années, et je dis et je rappelle systématiquement aux deux populations, si on peut les appeler comme ça, qu'il est important qu'ils créent un vrai binôme, c'est-à-dire qu'ils s'entendent, qu'ils se parlent, qu'ils échangent, qu'ils partagent, parce que sans ces échanges, ces partages, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment le collectif. Ceci étant, effectivement, le rôle du coach ou de la coach va être de remettre sur pied, en fait, l'aspect psychologique, en fait, de l'entrepreneur. Un entrepreneur, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui a liquidé, ça peut aller jusqu'à, enfin, en tous les cas, dans sa manière de comprendre, de percevoir les événements, il y a comme une forme de presque de perte d'identité. Mm-hmm. On passe de 150-200% d'activité, et c'est souvent le cas pendant les 6 derniers mois, voire la dernière année, voire les 2 dernières années, sans être payé ou en étant payé très très mal. Parce que
beaucoup de frustration.
Voilà, oui. Énormément de frustration. Et puis, quelque part aussi une honte qui est là, qui s'installe jusqu'à, on passe devant le tribunal et d'une seconde à l'autre, on passe de chef d'entreprise à rien.
C'est ça, tout voilà. S'arrête, oui.
Ce choc-là qui est compliqué.
On rend les clés de son entreprise.
Oui, alors on rend les clés de son entreprise en sachant que l'entreprise meurt, en fait. Hein. Il y a vraiment une mort, quelque part. Hein. Et on parle vraiment de la mort. D'ailleurs, on dit d'une entreprise que c'est une personne morale.
Oui, absolument. Voilà.
Donc, il y a vraiment la mort de quelque chose qui arrive. Et c'est ce travail de deuil qu'on va proposer. C'est-à-dire de savoir comment passer à autre chose. Parce que si on regarde le deuil en tant que tel, qu'est-ce que c'est? C'est la compréhension qu'on a que quelque chose n'existe plus et que le fait qu'elle n'existe plus va nous apprendre quelque chose.
D'accord.
Et ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire de dire finalement le deuil, c'est quelque chose de positif. C'est complètement contre-intuitif. Quand on perd quelque chose, on ne peut être que triste. On ne peut pas être joyeux, ce n'est pas possible. Or, en fait, le deuil, c'est quoi? C'est une expérience. Alors, il y a des gens qui l'ont bien compris, hein, c'est les sportifs de haut niveau. Tout à l'heure, Laurent parlait effectivement du fait de passer à autre chose, du fait de l'expérience, finalement. Un sportif de haut niveau, il va avoir sa médaille d'or qu'une fois.
Oui.
Au bout de combien? Bah, de 1000, peut-être 2000 chutes de difficultés qu'il a pu traverser pendant des années avant de pouvoir effectivement être sur le haut du podium. Ben, un chef d'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'il arrive à comprendre, et c'est ça qui est compliqué, que le fait qu'il ait perdu l'entreprise, que cette entreprise est morte, lui a appris quelque chose qu'il n'aurait pas su si elle n'avait pas été morte. Et que ça, c'est un cadeau. D'ailleurs, dans la courbe du deuil, Elisabeth Kubler-Ross, qui a beaucoup travaillé sur le deuil, hein, qui a été une des grandes figures qui a travaillé là-dessus, parle du cadeau caché. Vous voyez, la dernière étape, c'est le cadeau caché. C'est finalement quelque chose qu'on ne savait pas qui existait et qui va nous permettre de rebondir. Donc, vous imaginez
c'est bien ce que vous dites, c'est même émouvant, je trouve.
Vous imaginez bien qu'on ne peut pas raconter ça à un entrepreneur qui vient liquider parce qu'il va nous prendre pour un fou. Soyons clairs. Hein. Moi, j'ai accompagné à peu près une petite vingtaine d'entrepreneurs depuis que je suis à l'association. Et je le vois, donc je leur dis, bon, bah, écoutez, là, vous allez ralentir, vous allez aller peut-être dans un square, vous allez prendre du temps, vous allez regarder la nature, vous allez vous reconnecter finalement. Et là, ils me disent, non, mais t'es dingue, je vais pas faire ça, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Si. Parce que tu as besoin de ralentir, tu as besoin de reprendre ton souffle quelque part. D'ailleurs, on utilise aussi des techniques au niveau du souffle. Par
de respiration.
Ouais. De respiration, ouais. Ce qu'on appelle très simplement la cohérence cardiaque, par exemple. Ce qui va permettre de retrouver un rythme plus apaisé, un rythme plus naturel, pas un espèce de rythme complètement...
Il y a même anarchique ou saccadé. Oui.
C'est
oui,
ça,
oui,
voir des entrepreneurs qui sont même en état de burn-out aussi.
Oui,
hein,
oui, c'est, bien
ça
sûr,
arrive
bien
aussi.
Sûr.
Donc voilà, donc... On va remettre en santé, on va reconstituer la santé, hein, c'est un parcours de santé finalement, l'entrepreneur, avant qu'il puisse reprendre quelque part une autre route, alors qu'elle soit dans le salariat, qu'elle soit dans l'entrepreneuriat, ça c'est lui ou elle qui va choisir, hein, c'est peu importe. Mais tant qu'il n'aura pas reconstitué quelque part un minimum de santé psychologique, physique, donc, et... on va dire émotionnel,
oui, oui.
Tant que tous ces éléments, ces trois bases-là ne sont pas revenus à un équilibre premier, bah en fait, ça ne fonctionnera pas.
Ça fonctionnera pas.
Et ça prend du temps. Et ça, c'est aussi compliqué parce que quand on a un entrepreneur qui arrive, très souvent, il n'a plus de revenus. Il n'a le droit à rien. Alors maintenant, c'est un petit peu changé. Heureusement, depuis maintenant un peu plus d'un an, on a la possibilité pendant 6 mois pour chaque entrepreneur sans aucune motivation autre que la demander avoir une aide de l'État. Enfin, mais ça ne fait qu'un peu plus d'un an que ça existe, donc il a fallu quand même lutter pendant des années et des années pour ça. Il y a bien évidemment aujourd'hui beaucoup de méconnaissance sur le chef d'entreprise, sur les ressources qui sont à sa disposition.
Dont il peut disposer, oui, voilà. Parce que il est important de dire que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'un chef d'entreprise, eh bien, c'est pas un salarié lambda, il n'a droit à rien sauf s'il a un autre emploi de directeur technique ou autre, mais s'il n'est que président directeur général, voilà. Eh bien, quand l'entreprise cesse, il n'a droit à aucune aide.
Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle un travailleur non salarié, TNS.
Oui, absolument.
Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, font que effectivement il va falloir à la fois travailler sur le côté psychologique, mental, moral, émotionnel aussi, parce qu'il passe par des ascenseurs émotionnels forts. Hein. On rentre, vous allez au tribunal, c'est ce qu'on appelle une chambre. Il y a des gens en noir, il y a le président de tribunal, il y a ses deux assesseurs, il y a le procureur de la République ou son représentant qui est là, il y a le greffier. C'est très solennel, hein. Ça dure quelques minutes. Hein.
C'est
très très court.
C'est même quelquefois frustrant.
C'est même
la façon dont ça.
On n'a pas trop le temps en fait quelque part d'expliquer et on a l'impression. Alors ça c'est une impression. C'est expédié. C'est pas vrai, hein, parce qu'il y a une étude de dossier,
mais c'est
l'impression que ça donne. Donc c'est très violent et on le voit à la sortie du tribunal, en sortie de chambre. Si on est là, ça nous arrive d'être là, les gens s'écroulent. Hein.
Oui,
ils font dans l'arme. Hein. Et quel que soit, en fait, des fois, moi, je vois des chefs d'entreprise, 1m90, 110 kilos, vous voyez, des armoires à glace, et ben ils s'effondrent comme des enfants. Et c'est normal, parce qu'il y a un moment donné où il faut que, quelque part, ça se lâche.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est cette difficulté. Hein. C'est à la fois dire comment on va retravailler sur soi. Je vois un chef d'entreprise, en plus, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un soi fort assez important. Hein. Il a une opinion assez haute de lui et de ce qu'il va faire. Sinon, il n'aurait pas entrepris, d'ailleurs. Hein. Ça fait partie de lui. Et c'est tant mieux. Et puis, de l'autre côté, il a aussi un besoin alimentaire. Comment il fait pour ne serait-ce que se nourrir, payer son loyer. Hein. On a des chefs d'entreprise qui, à plus de 50 ans, retournent chez leurs parents.
C'est
dramatique.
Ouais,
c'est dramatique. Alors, vous imaginez la honte qu'il peut y avoir autour de ça. Et puis, en même temps, il va falloir prendre le temps. Alors, prendre le temps à un chef d'entreprise, il dit « Non, mais j'ai pas le temps. C'est pas possible. » Or, ils le disent tous en sortant. Ils disent « Oui, au début, je comprenais qu'il fallait que je prenne mon temps, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire parce que j'étais dans une espèce d'obligation qu'il fallait faire. » Et puis, finalement, j'ai compris que en prenant le temps, en ralentissant, en soufflant, en respirant, finalement, c'est là où on retrouve ses vraies capacités, et ce qui permet de transformer finalement un échec en expérience.
Oui, oui. Si tout se passe comme on le souhaite, en tout cas pour la personne.
Tout à fait. Alors,
donc on a bien compris hein, que votre rôle, c'est une grande partie du travail est faite pour accueillir l'échec quelque part. J'ai noté que il y a une différence parce que c'est pas un accompagnement à la dépression, c'est vraiment un accompagnement à l'acceptation de l'échec, hein, c'est ça?
C'est ça.
Jean-Marc.
Ça, c'est très important. Mmh. C'est-à-dire que on reçoit des chefs d'entreprise qui sont aussi effectivement dans un état de dépression assez avancé, voire même, et on le traite aussi, de risque suicidaire.
Oui, oui.
Ça arrive. Oui. Ça fait partie quelque part du lot de ce qu'on peut recevoir. Alors, on va pas le traiter, nous. Ça, on va pas le traiter. On va orienter la personne vers quelqu'un qui va savoir le traiter. C'est pas notre métier.
Oui.
Et ça ne doit surtout pas l'être. Parce que nous sommes vraiment dans la reconstruction. Dans qu'est-ce qui va permettre de rebondir? 60 000 rebonds, d'où le nom. Oui. Et ça, c'est important. Donc, on va réorienter une personne, s'il le faut, vers des professionnels qui savent gérer et traiter, que ça soit la dépression, que ça soit le risque suicidaire. Mais nous, on n'est pas, c'est pas notre capacité,
c'est pas votre,
et on
ne
va
lot.
Pas le faire.
C'est là où on va pas en dire long, mais on peut citer APESA qui est là pour justement prendre toute cette partie psychologique.
Absolument. Hein,
du chef d'entreprise.
Nous avons d'ailleurs un partenariat étroit avec APESA. Partout, ça existe, et on réoriente très régulièrement des chefs d'entreprise vers APESA. Ou vers d'autres, mais enfin, effectivement, on a quelque chose d'assez ouvert de ce point de vue-là.
Jean-Marc Bouvet, le temps file et vous savez quoi, il faudra que vous reveniez encore.
Parce qu'on a ça pas sera avec dit. Grand plaisir.
Quels sont vos besoins pour 60 000 rebonds?
Alors, je vais rebondir sur ce que disait Laurent tout à l'heure. Nous, nos besoins, ils sont multiples. Le premier, si on se met du côté, en fait, de l'accompagnement, c'est d'avoir des gens qui accompagnent. Donc, on est en recherche perpétuelle de coachs. Alors, nos coachs doivent être seniors. Ce sont des coachs qui ont moins 2 ou 3 ans de pratique et qui pratiquent de façon régulière, qui sont certifiés, et ça c'est très important, qu'on fait un travail eux-mêmes sur eux.
Eux-mêmes,
et ça c'est important aussi. Là, on se rend compte qu'il y en a quelques coachs qui sont un petit peu en difficulté par rapport à ça, parce qu'il n'est pas question non plus de mettre en difficulté les accompagnants.
Je comprends.
Donc ça c'est important. On a bien évidemment besoin de parrains, de marraines. Donc, ils sont souvent soit des gens qui sont proches de l'entrepreneuriat, donc d'anciens entrepreneurs, ou des cadres dirigeants, mais qui connaissent un peu l'entrepreneuriat. Et puis, on a besoin de bénévoles autres, parce qu'on a aussi besoin d'experts dans des domaines particuliers, quels qu'ils soient. Et on a des experts qui peuvent être d'anciens juges, d'anciens mandataires, mais aussi des gens qui sont dans le secteur juridique ou judiciaire, des assureurs, enfin.
Oui,
etc.,
le champ
etc.
est large. Hein.
Le champ est très large. Donc, on a vraiment besoin d'avoir de nouveaux bénévoles qui s'engagent dans une association qui a des valeurs et qui incarne ces valeurs. Ça, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de les avoir sur un mur, c'est aussi de les incarner par des actions au quotidien. Et ça, c'est vraiment important et on y est très attentif. Donc ça, c'est la première bulle, le premier besoin qu'on peut avoir. Le deuxième besoin, c'est de faire parler, en fait, de cette association autour de soi. Je reprends ce que disait Laurent tout à l'heure. Pour qu'un entrepreneur vienne chez nous, on s'est rendu compte que souvent, il faut qu'il en ait entendu parler 3 fois.
Oui.
Donc il va en entendre parler souvent par le greffier ou le tribunal de commerce qui nous connaît. Il va en entendre parler peut-être une seconde fois, mais à demi-mot par le mandataire qui va le recevoir après la liquidation, parce que c'est aussi le cas. Mais c'est très rapide, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup le temps. Et puis, il va falloir qu'il entende parler une troisième fois. Donc, c'est parlez-en autour de vous. Voilà. On est là, on accueille tout le monde. Alors, on a quand même des critères. Hein. Tout à l'heure, Laurent le disait.
Oui,
hein.
On
aujourd'hui, on n'accompagne pas des entrepreneurs qui sont effectivement, on va dire, à la limite du judiciaire. Ça, on ne va pas les accompagner. Et puis, le deuxième critère, c'est que la liquidation ait eu lieu. Mais en fait, il y a des gens qui viennent nous voir juste avant et on les accompagne juste après. Donc, parlez-en autour de vous. C'est vraiment en partageant l'information le plus possible qu'on a le plus de chances finalement d'atteindre finalement ces entrepreneurs qui sont en vraie difficulté. Voilà.
Et c'est le but de cette émission et d'autres émissions à venir pour faire connaître 60 000 rebonds. Oui, Laurent.
Et Jean-Marc, excuse-moi de passer derrière, on a oublié un fondamental, on a besoin d'argent.
Ah
on
oui.
a besoin de
oui.
mécènes,
oui, parce que
on
vous
a
vivez
besoin
de subventions.
De financement et
bien
de subventions.
Sûr,
donc, clairement, ça, c'est un point sans lequel nous, on peut pas vivre. Un accompagnement d'un entrepreneur pendant 2 ans, ça coûte à peu près 6 000 euros.
Ouais.
Donc, il faut pouvoir le financer. Et bah, l'argent, on le trouve pas au coin de la rue. Hein. Donc
voilà. D'où ce petit déjeuner prévu pour des futurs mécénats. Je vois avec bonheur que Patrick et Catherine prennent des notes. Donc voilà, je pense que vous allez avoir des nouveaux supporters. Oui, Patrick, je vous en prie.
Je crois que nous avons beaucoup de similitudes.
Oui. Je pense. C'est pour ça que j'étais heureuse de vous réunir. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc également pour votre engagement au sein de 60 000 rebonds. Et puis, on retiendra que l'échec, ça doit être le fondement de la réussite. Merci à vous.
Exactement. Merci à vous Jacqueline. Merci.
Restez avec nous dans quelques minutes après 60 000 rebonds, la découverte d'une autre dimension toute spécifique du Lions Club. À tout de suite. L'économie en direct et je suis toujours en compagnie pour 60 000 rebonds de Laurent Klein, coach référent de 60 000 rebonds et responsable de l'antenne du Val d'Oise. Jean-Marc Bouvet, secrétaire général et coach référent de la région Île-de-France-Normandie. J'ai dit coach référent pour Laurent. Non, c'est parrain référent, pardon, Laurent. Et pour le Lions Club, Catherine Poquet, vice-présidente et directrice de l'organisme de formation Lion Quest France. Et Patrick Bonnefond, administrateur Lions Quest France, parce que bon, chargé de la prospective et du développement. Alors, Patrick et Catherine, je vais d'abord peut-être commencer avec vous, Patrick, parce que avec vous, on va également, comme on l'a fait avec Laurent et Jean-Marc, reprendre les fondamentaux du Lions Club, peut-être.
Oui, avec plaisir. Et puis, Lion Quest France, c'est une association interne au Lions International. Oui. Donc, c'est une continuité.
Complètement.
Et le Lions International, qui a été créé en 1917 par notre fondateur Melvin Jones, qui avait pour slogan « On ne peut aller loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre », œuvrer pour les enfants, c'est une belle continuité.
Oui, c'est une belle image, oui.
Le Lions Club International, je rappelle que c'est la première organisation non gouvernementale aujourd'hui, que nous sommes présents dans plus de 200 pays et que le Lions International réalise au quotidien des actions humanistes et humanitaires. Le Lions International a un statut consultatif permanent auprès de l'ONU, de l'UNESCO, de l'UNICEF et de l'OMS.
Oui, oui, oui.
Et enfin, le Lions
International. C'est dire votre vraie reconnaissance.
Exactement, ce qui fait que ça explique bien pourquoi nous intervenons sur le plan humanisme et sur le plan humanitaire.
Bien sûr.
Et je dirais terminer avec la présentation du Lions International. Le Lions International est structuré autour de deux organismes. Vous avez le Lions Club International qui regroupe l'ensemble des Lions Clubs et qui œuvre au quotidien au profit de 5 causes mondiales: la vue, la lutte contre la faim, l'environnement, le diabète et le cancer infantile. Et puis le deuxième organisme, qui est son bras financier, c'est notre fondation internationale qu'on appelle LCIF, Lion Club International Foundation, qui a été créée beaucoup plus tard. Elle a été créée en 1968 et qui finance en direct 3 causes mondiales: l'aide humanitaire, l'aide aux victimes des catastrophes naturelles et l'aide à la jeunesse. Et c'est pourquoi Lion Quest France est rattachée directement à notre fondation internationale.
Bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'avais eu le plaisir de vous accueillir il y a un petit peu moins d'un an, Patrick. Vous étiez alors le gouverneur Île-de-France-Ouest. Et je dois dire que depuis, les relations entre IDFM Radio et le Lions Club se construisent doucement, mais sûrement. Et voilà, j'en suis ravie.
Et c'est un plaisir pour nous de travailler avec IDFM 98.00.
Absolument. Merci
vous,
infiniment. Alors donc, peut-être donner la parole à Catherine maintenant, parce que Catherine, donc vous êtes là, on viendra avec vous, hein, Patrick, mais peut-être pour faire le lien par rapport à Lions Quest. Catherine, parce que c'est très, il faut dire que dans le Lions, c'est très construit, très hiérarchisé, voilà. Donc vous avez toute une, peut-être un mot, Patrick, sur les districts, expliquez-nous.
Oui, alors tout d'abord, peut-être un mot sur Lion Quest.
Oui,
pourquoi Lion Quest ?
Allez-y.
En 1975, vous avez un jeune Américain qui a 19 ans, qui est étudiant à l'université et qui perd sa mère suite à des addictions.
D'accord.
Il se met à la recherche, à ce moment-là, de méthodes alternatives à la répression et à la sensibilisation aux informations scientifiques pour lutter contre les addictions aux drogues et à la violence. Mmh. 1975, c'est l'époque de l'émergence de l'intelligence émotionnelle.
Oui.
Il va donc se baser sur ce principe pour créer un programme destiné à la jeunesse, qu'il intitule The Quest, la recherche. À partir de 1984, il s'oriente, il contacte le Lyons International et plus particulièrement notre fondation internationale parce qu'il a besoin d'un soutien financier pour se développer, mais aussi sur le plan technique pour faire connaître sa méthode pédagogique et notamment au niveau des écoles. Mmh. Et on arrive en 2002 où notre fondation décide d'acquérir les droits du programme Quest qui devient à ce moment-là un outil pédagogique 100% Lyon dans le cadre de nos actions humanistes. Voilà, réduit en quelques mots, l'historique de Lion Quest.
Oui, c'était important de le dire, en effet. Oui.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce programme, aujourd'hui, il est déployé dans 148 pays. Il est traduit en 40 langues. 600 000 professeurs ont été formés à cette méthodologie et c'est 16 millions d'enfants dans le monde qui ont bénéficié de cette formation. Et je terminerai en disant que vous avez les pays nordiques, comme l'Allemagne, et notamment l'Allemagne, qui ont intégré ce programme dans les programmes scolaires.
Ce qui ne saurait tarder en France, puisque je sais que vous avez rencontré très récemment un conseiller du Premier ministre à Matignon.
Oui, tout à fait. On a eu le plaisir de rencontrer à l'hôtel Matignon un des conseillers proches de notre Premier ministre et qui doit nous mettre en relation prochainement avec la directrice générale de l'enseignement scolaire qui était à l'époque, lorsque notre Premier ministre Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, sa conseillère spéciale pour tous les problèmes liés au harcèlement, à la violence, aux addictions. Et donc, il y a la personne la plus adéquate pour comprendre notre projet d'agrément, de demande d'un agrément auprès de l'Éducation nationale et de partenariat avec eux.
Et alors, la formule utilisée pour le Lyons Quest, c'est un passeport pour la vie, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc Lion Quest, c'est Lion Quest France, c'est la fédération qui regroupe 11 associations, puisque dans chaque district, vous avez une association dédiée à un programme qui s'appelle Un passeport pour la vie, qui est piloté par notre organisme de formation, qui est agréé et certifié Calliope.
Ah, très bien. Bon, bah, écoutez, on va en savoir plus avec Catherine. Je vous propose juste de faire encore une pause et puis on voit ça avec vous, Catherine. Merci infiniment.
Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pan directo al corazón. Y por más veces que
pero
sea pa' mí. Me convierto en loba like Chucky. Loca, loca, tú eres mi tigre. Toca, tócame con más ganas pa' que nunca de ti me olvide. Loba like Chucky, tú eres mi tigre. Muérdeme duro de este culo, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería. Cali, Cali B.
Voilà, de retour sur IDFM Radio, et c'est toujours l'économie en direct avec dans le studio deux belles associations, 60 000 rebonds et le Lions Club. Et pour le Lions Club, je donne la parole maintenant à Catherine Floquet, que j'avais mal nommée depuis le début de l'émission. Donc désolée Catherine.
C'est pas grave.
Et on vient de découvrir qu'on se connaissait même
peut-être oui.
par rapport à d'autres activités. Alors Catherine, donc vous êtes la directrice de cet organisme de formation Lion Quest France, un passeport pour la vie. Je vous laisse vous présenter, puis
oui.
nous dire comment vous êtes devenue cette directrice de l'organisme.
Oui, je pense que c'est important de toujours savoir pourquoi on est là.
Oui, d'où l'on vient.
Qu'est-ce qui nous a amené.
Absolument.
Alors moi, je suis issue du milieu de l'éducation. J'ai été pendant 40 ans directeur pédagogique d'un gros centre de formation d'apprentis qui se situe dans le 78 à Poissy, où nous avions 1700 jeunes en formation. Et c'est vrai que j'ai été assez rapidement confrontée à de l'évaluation, de la comparaison, de la dévalorisation auprès de ces jeunes qui n'avaient pas peut-être l'intelligence, le QI suffisant pour pouvoir faire des études comme on avait envie de les faire en France, et qui pour certains, avaient autre chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et qui leur a permis d'ailleurs de surpasser certains qui avaient fait des études brillantes, parce que sans intelligence, sans le QE,
c'est ça, il y a plusieurs intelligences.
Performant.
On
voilà.
est bien d'accord.
Le QI
oui.
ne sert pas à être forcément performant. Donc très rapidement, j'ai vu arriver, et on a beaucoup travaillé avec mon équipe. Et lorsque je suis devenue Lyons en 2009, j'ai connu ce projet qui s'appelle Passeport pour la vie, et je me suis sentie forcément impliquée dans ce développement dans ma région, enfin au niveau de la France, parce que ça correspondait à ce que j'avais déjà.
Oui, ça a vraiment fait résonance.
Ça fait résonance, oui. Et je me suis dit, ça sera ma dernière mission. Donc voilà, donc ça fait du coup 10 ans qu'on travaille ardemment sur ce développement. Alors c'est quoi PPLV ? Ben c'est apporter aux enfants, parce que notre cible ce sont les enfants, c'est de leur apporter le développement de cette intelligence émotionnelle qui ne s'apprend pas comme un savoir fondamental, mais qui se vit. Voilà. Et donc, il faut expérimenter. C'est pour ça qu'on a une pédagogie très expérimentielle et ludique, parce que du coup, par le jeu, on peut aussi les attirer. Mais c'est à un moment donné, on ne peut pas dire « Je vais te dire ce que tu vas faire. » Parce que moi, non. Et tu l'as vécu, cette situation ? Ben non, je ne l'ai pas vécu. Alors, pourquoi tu voudrais me dire que ce n'est pas ? Donc, c'est ta vérité.
D'accord.
Mais ce n'est pas la mienne.
Ouais.
Donc, on va essayer peut-être d'apprendre à se connaître différemment et puis de se dire « Ma vérité ». Et ta vérité peuvent à un moment donné se rencontrer. Donc c'est tout ça, c'est tout ce challenge-là que l'on propose à toutes les personnes qui sont en lien avec les enfants. Ça peut être les centres sportifs, les centres culturels, les parents, c'est bien sûr tout le monde éducatif, puisque c'est un petit peu là-dessus qu'on a commencé au départ, c'est de rentrer dans le monde éducatif, parce qu'on est issu de ce monde-là, donc on savait qu'on avait un besoin. Parce qu'il y a un énorme besoin dans l'équipe enseignante, dans les équipes enseignantes, de retrouver un petit peu de liberté et surtout de sérénité. C'est un métier qui devient de plus en plus difficile, dû à des constats sociétals. On ne va pas revenir dessus, tout le monde les connaît, mais c'est vrai que le multiculturalisme, qui est un truc fabuleux, mais qui demande...
Oui.
à connaître l'autre de façon différente, et puis un petit peu l'ouverture des uns et des autres sur ce que surtout moi j'ai envie d'être. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et donc, on travaille surtout le développement des compétences psychosociales, qui est très connu dans le monde éducatif, sur les compétences cognitives, les compétences sociales, les compétences relationnelles. Et donc, on apprend à tous les enfants. On a trois tranches d'âge, les tout petits, les 4-9 ans, où là, on travaille uniquement sur c'est quoi une émotion, ça sert à quoi une émotion, et pourquoi elle arrive comme ça, et comment je fais
pour la gérer.
On vit l'émotion, on ne met pas du tout, on ne conscientise pas par rapport à je veux faire ça, on la vit au fond de soi.
Jean-Marc, vous voulez intervenir?
Ah oui, j'ai envie de rebondir. Là.
Alors, je suis dans mon thème de rebond.
Les émotions, je participe en l'occurrence aussi à ça. C'est un de mes sujets favoris, l'émotion. Parce que moi, je dis toujours, l'émotion a une fonction. Elle sert à quelque chose. Quand on a peur, c'est qu'il y a un danger. Quand on est en colère, c'est qu'il y a quelque chose d'injuste qu'on a vu. Enfin, elle sert à quelque chose. Et si on sait à quoi elle sert, et pour les enfants, c'est génial, parce que si on leur explique simplement que quand ils ont une émotion, elle est en train de nous dire un truc, et qu'avec ce truc-là, on va pouvoir en faire quelque chose, du coup, ça devient positif.
Tout à fait.
Donc j'avais vraiment envie de rebondir sur ce que vous disiez.
Merci beaucoup, parce que c'est de toute façon, on sent bien depuis le début de notre rencontre qu'on a plein de choses en commun et à partager.
Oui, écoutez, moi, je suis ravie
que,
c'est vrai que
quand on a, comme tu le dis, cette maîtrise d'émotion, après, on va vers le sentiment.
Et
le sentiment nous donne, du coup, quelque chose de mentalisé et
absolument.
Qui nous permet de réfléchir par rapport à qu'est-ce que je vais en faire et vers quoi je vais aller. Et là, c'est le travail de la période de 8-13 ans, parce qu'on dit que l'âge de raison, c'est 7 ans, mais maintenant, un petit peu avant, les enfants sont de plus en plus matures. Mais dans cette période-là, où on apprend à comprendre mon attitude, qu'est-ce que je vais mettre en place par rapport à mon besoin à moi, mais le besoin de l'autre. Et on travaille sur les 4 étapes de la communication non-violente, que vous connaissez, qui est Marshall Rosenberg. Nous, on l'a appelé différemment parce qu'on n'a pas voulu prendre le mot violence.
Oui.
On n'a pas envie que les enfants entendent encore une fois ce mot. Donc, on l'a appelé passeport pour la vie, mais oser dire, mais en sachant dire. Qu'il faut oser dire aux autres ce que l'on a au fond de soi, que ce soit quelque chose d'heureux. Et ça, il faut aussi avoir cette capacité de dire « je me sens bien avec vous », mais c'est parce que voilà, et de pouvoir le dire. Mais aussi quand on se sent mal en place par rapport à sa structure personnelle et puis sociétale. Donc on apprend donc tout ça aux enfants. Et après, on a une troisième tranche d'âge qui sont les 15-21 ans, où là, on travaille beaucoup plus sur cette capacité d'adulte, puisque là, on est quand même normalement un peu plus construit.
Dans l'expression, sûrement.
Oui, voilà. Non,
parce qu'on s'est rendu compte que plus on sait s'exprimer, plus on va pouvoir dire ce qu'on ressent. Et donc, du coup, moins on va être violent, d'ailleurs.
Tout à fait.
Une corrélation entre les deux.
Voilà. Et c'est ça qui est intéressant quand on rencontre des gens qui ont des actions sur le terrain comme vous, c'est de se dire, mais nous, on est en amont. On va peut-être apporter des choses qui vont permettre à certaines personnes de ne pas arriver à des périodes de dépression parce qu'ils auront été en capacité de comprendre qu'ils ont au fond d'eux
de formuler d'autres capacités, ce qui ne va pas.
Voilà, et qu'ils vont pouvoir les remettre en œuvre. Donc,
Alors Catherine, je voudrais vous poser une question parce que vous dites on fait ces formations, c'est-à-dire, et vous, j'ai bien entendu, Patrick nous a dit que vous étiez agréé Calliope, donc c'est une belle référence. Donc ce sont vous intervenez quand même dans les écoles, mais sous forme d'atelier, c'est ça?
Tout à fait. Donc l'organisme de formation, nous avons à ce jour 13 formateurs certifiés. Après un parcours de formation de 2 années, on est certifié par un formateur senior qui est agréé par notre fondation LCIF et qui donne cette qualification aux personnes qui se sont engagées dans le programme, mais c'est surtout par rapport à une exemplarité, parce que l'enfant, il va regarder ce que vous faites. Il ne va pas forcément vous écouter, mais il va vous regarder. Et c'est la posture, l'exemplarité de la posture.
On sait que le mimétisme est très important dans ce cas-là.
Donc, on est 13 formateurs certifiés en France. On a, tout à l'heure, Patrick vous disait qu'il y a 11 districts, c'est 11 régions qui se sont engagées dans ce programme-là au niveau national. Et donc, le but est de former minimum 3 formateurs par région pour pouvoir répondre aux besoins qui sont les besoins dans les écoles. On intervient beaucoup dans les écoles. Donc, on fait des formations de 3 jours. 2 jours initiales où on est sur on vit ensemble. Parce qu'on est beaucoup dans l'expérience. Donc, on vit ensemble cette formation. On travaille sur nos propres émotions. On travaille sur plein de petites mises en situation par rapport à ça. Et puis, il y a une plateforme de formation à distance qui permet de continuer à progresser sur les fondamentaux de la communication non-violente. Et puis après, il y a une troisième journée, à peu près 6 mois après ces 2 premières journées, où là, on travaille, voilà. Qu'est-ce que vous en avez fait maintenant de tout ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? C'est quoi l'école de vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez déployer dans votre établissement? Voilà. Donc, on a ces 3 journées-là. Ça, c'est plus, plus pour les enseignants. Hein, que ce soit école privée ou école publique. Hein. On a un peu plus de, je dois dire, d'entrée dans les écoles privées, mais là, on travaille justement avec notre entretien avec Matignon nationale, pour entrer dans les écoles privées. Par contre, on est beaucoup dans les centres de loisirs et on a compris qu'il fallait qu'on soit sur une communauté éducative. Parce que l'enfant, on lui apporte quelque chose à l'école, mais si à l'extérieur ou à la cantine ou au club de foot, il n'a pas la même résonance, il va se dire, mettons, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, on essaye d'aller vers cette communauté et on est sur les parents. Mais on commence à être de plus en plus aussi sur les équipes d'encadrants. Par exemple, sur les IME, les ESAT, qui ont besoin justement de travailler sur cette intelligence collective et surtout la gestion de ses émotions.
Ce qui crée une cohérence finalement, en fait. Hein. C'est ça.
Oui,
hein.
Tout à fait. C'est notre but.
Une cohérence, une cohésion, un collectif.
Voilà. Jean-Marc Bouvet. Ouais.
Et une complétude.
Et ce que nous disions avant de démarrer l'émission, Patrick, vous disiez que ce programme PPLV maintenant s'adresse aussi de plus en plus aux adultes.
Oui, tout à fait. Et ce que vient de vous expliquer Catherine, les mairies, les associations, les organismes, des institutions viennent nous chercher en disant votre programme, il est très riche. Et parce que tous les thèmes que vous abordez concernent aussi les adultes, donc on est intéressé pour nos personnels encadrants ou nos personnels qui ont en charge l'accueil, puisqu'ils sont confrontés à du travail en équipe, à des problèmes relationnels, à des problèmes de gestion parfois de conflits.
Bien sûr.
Je dirais parfois aussi malheureusement des incivilités. Donc oui, aujourd'hui on ressent un besoin immense, y compris au niveau des adultes.
Oui, c'est sûr. Alors Catherine, je sais que je dis souvent ça dans mes émissions, mais je pense que vous allez aussi revenir parce que là on n'a pas fait le tour de tout le PPLV. Et puis en plus on voudra connaître la suite de votre entretien à Matignon.
Merci.
Dites-nous quels sont vos besoins, Catherine.
Alors, nos besoins, ils sont quand même immenses, quand même, parce que l'éducation nationale, c'est un mammouth. Donc, on a besoin, bien sûr, d'être connus dans notre secteur, dans chaque région où on intervient. Donc, on a besoin, bien sûr, de rentrer en lien aussi avec les centres de loisirs. On a besoin de rentrer en lien avec d'autres associations qui travaillent avec les enfants. Ça, c'est extrêmement important. Nous faisons d'ailleurs le 27 avril... une journée découverte dans 3 lieux différents pour permettre à chacun de venir découvrir ce qu'est PPLV. C'est une journée qui sera complètement axée sur la communication bienveillante ou la communication non violente, où on travaillera avec la méthodologie de Passeport pour la vie. On sera dans l'expérimentiel. Donc il y en a une qui se situe qui va avoir lieu à Pontoise, une à Noisy-le-Roi et une à Vanves, qui sont les 3 implantations de nos districts Lyons, où il y aura bien sûr un formateur certifié qui accueillera ceux qui veulent bien venir nous retrouver pour expliquer un petit peu plus ce qu'est notre passeport pour la vie.
Très bien. Écoutez, c'est autant d'informations qui se retrouveront dans le podcast de l'émission, bien évidemment. Oui, Patrick, je vous en prie.
Je rajouterais que, comme nos homologues, nous avons un besoin de dons, besoin financier, parce que nous sommes des bénévoles. La formation, ça a quand même un coût. Et que pour pouvoir organiser des ateliers, des journées d'information, oui. Et bien sûr, comme nous sommes reconnus d'utilité publique, les gens qui font des dons peuvent bénéficier d'un CERFA derrière.
Très bien. Écoutez, c'était important de le préciser. Alors moi, je voudrais dire parmi les actualités que demain, donc 13 avril, c'est votre congrès, le congrès
samedi.
Demain. Et Et IDFM sera sur place pour couvrir l'événement. Donc, on va se revoir.
Oui, et merci de votre présence.
Merci à vous, merci. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Alors, je sais que mes invités ont toujours un petit mot encore à dire, donc c'est pour ça que je redonne la parole. Laurent, avant de se quitter, un mot.
Eh ben, merci Jacqueline pour ce soutien à 60 000 rebonds indéfectibles. Voilà, et un appel à tous les auditeurs pour flécher vers 60 000 rebonds les entrepreneurs qui ont malheureusement trébuché.
Oui, oui. Merci Laurent. Merci aussi à vous d'être présent comme ça pour nous présenter 60 000 rebonds. Jean-Marc Bouvet, vous aviez aussi une petite information à nous dire à propos d'un emploi, une entreprise qui redémarre.
Je ne sais plus si ça a été dit. Et j'aime mieux le rappeler.
Allez-y,
même si ça a
c'est
été
pas
dit.
Grave.
Un entrepreneur qui rebondit, deux chiffres intéressants.
Oui.
Un entrepreneur qui rebondit sans aide, sans oui. accompagnement, en moyenne, c'est à peu près 6 à 7 ans. Par le biais de notre association, en moyenne, c'est 18 mois. On parlait de 2 ans, c'est 2 ans maximum, mais en général, ça dure un petit peu moins longtemps. Ça, c'est un premier chiffre. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça aide vraiment à rebondir. Un deuxième chiffre, un entrepreneur qui rebondit dans l'entrepreneuriat, puisqu'ils rebondissent aussi dans le salariat, c'est 3,2 emplois de créés. Donc c'est vraiment de la création de valeur derrière. Et c'est surtout quelqu'un qui ne va pas reproduire une erreur.
C'est ça, il aura appris de ses erreurs, on l'a dit.
Donc ça renforce quelque part l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment d'utilité publique.
Et il faut dire que d'ailleurs, vos entrepreneurs qui ont rebondi deviennent eux-mêmes des parrains, deviennent éventuellement des coachs. Enfin voilà, il y a une vraie synergie qui se crée. Merci infiniment Jean-Marc pour votre savoir. Catherine Floquet, je vous en prie, allez-y.
Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc. Utilité publique, oui. Alors nous, on est un petit peu plus, on a une autre expression, c'est que nous, on devrait être remboursé par la sécurité sociale.
Carrément.
Parce qu'on travaille, qu'on travaille sur le fait d'avoir moins de dépression, qui se remettent en cause continuellement et qui se prennent beaucoup d'anxiolytiques. Et le fait de venir nous rencontrer, vous, par rapport à des difficultés professionnelles, nous, en amont, pour pouvoir se construire, je pense que oui, on devrait faire attention. Enfin, on devrait le payer pour le déficit qui va être comblé à la société.
Et pas faire du curatif, mais vraiment
pas faire
du préventif.
Curatif et faire du préventif. Et merci d'avoir été aussi facteur de lien entre nous, parce que je pense qu'on peut faire des choses.
Bah écoutez, c'est mon bonheur quand ça marche comme ça, et ça marche souvent comme ça, je dois dire. Patrick Bonnefond, un mot avant de nous quitter.
Oui, un ou deux mots. Il faut savoir que depuis plusieurs années, le Lion Quest au niveau mondial travaille avec l'ONU sur des programmes de lutte contre la drogue et la violence, et je dirais le crime. Une petite information aussi, le 8 juin prochain, ça sera la journée des Lions de France et de notre fondation internationale LCIF. Et à cette occasion, sur la zone, ça se passera à Deuil-la-Barre. Et chaque club présentera les différents ateliers, dont une association qui s'appelle L'Image au bout des doigts, qui œuvre au profit des aveugles et malvoyants, seront présentes à cette occasion.
Rappelez-nous la date, Patrick.
Le 8 juin.
Le 8 juin, oui.
À Deuil-la-Barre, pour votre secteur.
Oui, absolument. Là, on ne peut pas ne pas y aller. Hein. C'est
exactement
obligé.
Et vous aurez vraiment une représentation de toutes les actions réalisées par les Lions sur le terrain.
Très bien, merci.
Et puis, je terminerai en vous disant merci de nous avoir proposé cette invitation et de nous permettre de présenter Lion Quest France ainsi que notre programme PPLV. Un passeport pour la vie.
Merci à vous pour tout ce que vous faites. En tout cas, je m'adresse à tous les quatre. Hein. Merci infiniment d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie et puis chacun dans votre domaine pour cette démonstration de savoir-faire collectif dans l'intérêt général. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Jacqueline.
C'est la fin de l'économie en direct. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, retrouvez comme bon vous semble son podcast disponible sur le site idfm98.fr. Merci Christophe pour la technique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et puis selon la formule consacrée, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et bon week-end.